Bonjour Hervé.
Bonjour.
La presse du jour en première page du Figaro ce matin, le texte sur la fin de vie que l'Assemblée nationale, on vient de l'évoquer dans les titres, commence à examiner.
Le Figaro explique le processus. Les 71 députés membres de la commission spéciale constituée pour ce projet se réunissent pour la première fois. Ils vont procéder à des auditions d'acteurs concernés par la réforme. Et la présidente de la commission, l'ancienne et éphémère ministre de la Santé Agnès Firmin-Lebaudeau, se félicite d'employer une méthode de co-construction avec les parlementaires et les soignants. Le problème, c'est que les opposants dénoncent un calendrier au pas de charge, car le texte est censé arriver en séance le 27 mai, et plusieurs corporations de soignants, les infirmières, les gériatres, les psychiatres, les oncologues, s'estiment tenus à l'écart et exigent d'avoir une place dans ce débat.
Le Figaro cite une lettre adressée par les représentants de ces professions à la commission parlementaire.
Et le courrier reflète leurs inquiétudes et l'éditorialiste du journal Yves Tréhard écrit « La vie d'une grande partie des soignants en première ligne face à cette euthanasie qui ne dit pas son nom est négligée. Alors qu'un quart des Français meurent en EHPAD, les gériatres déplorent qu'on envisage une loi sur l'aide à mourir plutôt qu'une loi sur le grand âge pour accompagner les personnes vieillissantes. Les psychiatres, eux, écrivent ceci « Depuis des dizaines d'années, nous luttons pour prévenir des suicides et voilà un texte qui en fait la promotion comme une liberté intime. Qu'est-ce qui permet de dire que le temps qui reste à vivre à un patient mérite d'être vécu ou non ? C'est une question à laquelle il est impossible de répondre. Sur ce texte, on le voit, le débat politique sera aussi philosophique.
Et ben on en parlera à Luc Ferry qui est déjà derrière son micro. Dans ce studio, dans la presse régionale, d'autres médecins sont mis à l'honneur. Ils viennent de mener à Toulouse une étude sur la maladie de Parkinson.
Les deux quotidiens d'Occitanie, La Dépêche du Midi et Midi Libre, s'en font largement l'écho. Un essai clinique piloté depuis le CHU de Toulouse et auquel ont participé 20 autres centres spécialisés et 158 malades volontaires a permis d'établir qu'un médicament antidiabétique, le lixisénatide, permet de freiner les symptômes de la maladie de Parkinson. Cette pathologie qui atteint 270 000 personnes en France et 10 millions dans le monde affecte le contrôle des mouvements en détruisant des neurones. Le traitement étudié par l'équipe de Toulouse semble ralentir le processus neurodégénératif au stade précoce de la maladie. Mais la cause de la maladie, elle, reste pour l'instant inexpliquée.
Un tout autre sujet fait la une de Libération, la banalisation du Rassemblement National.
Avec ce titre façon Libé, l'ERN comme un poison dans l'eau. Nous sommes 22 ans après le choc du 21 avril, c'était en 2002, quand Jean-Marie Le Pen se hissait au second tour de la présidentielle. Ce jour-là, Libération titrait d'un énorme non sur le visage du leader d'extrême droite, record absolu de vente du journal, rappelle Libération ce matin. Et Libération se rappelle donc avec nostalgie les deux semaines de manifestations qui suivirent à l'époque, 1,5 million de Français dans les rues, le temps a passé et le journal décrit la stratégie des petits pas d'un parti qui pourrait bientôt en faire un grand aux élections européennes dont il est le favori. En 2015, Aymeric Durox était un jeune prof d'histoire au lycée de Fontainebleau. Il venait d'adhérer au RN, on le regardait de travers. 8 ans après, il est sénateur et à son pot de départ du lycée, une dizaine de ses collègues sont venus trinquer avec lui. En Moselle, Kevin Pfeffer, élu député en 2022, se flatte d'être invité au Rotary Club. Libération décrit les étapes de cette banalisation tranquille jusque dans les médias et au Parlement, sans oublier le coup de main involontaire mais précieux que lui ont donné les outrances de la France insoumise.
Pendant ce temps, chez nos voisins européens, les partis d'extrême droite vivent des moments moins tranquille.
C'est en effet le cas en Allemagne où l'AfD voit sa popularité s'effriter, relate le quotidien L'Opinion. Les intentions de vote du parti ne se situent plus qu'entre 16 et 18%, ce qui marque un fort recul. La faute à l'émergence d'une formation lancée par une ancienne égérie de la gauche radicale allemande, mais au programme anti-immigration. Et la faute aussi à une cascade d'ennuis judiciaires. Ainsi, l'un des leaders de l'AfD doit s'expliquer depuis jeudi devant un tribunal tribunal pour avoir employé un slogan nazi dans deux discours publics. Et un de ses eurodéputés est accusé d'avoir touché de l'argent russe pour exercer une influence au Parlement européen. Le versement aurait eu lieu à Prague dans une voiture dans laquelle les services de renseignement tchèques avaient placé des micros.
Ça sent bon la guerre froide.
Hein. Ah oui.
En Italie, c'est l'annulation d'une interview à la télévision d'un écrivain d'opposition au gouvernement de Giorgia Meloni qui suscite un tollé.
C'est le site de Courrier International qui le rapporte ce matin. L'écrivain s'appelle Antonio Scurati. Il est connu pour ses livres sur le fascisme et ses attaques contre la première ministre, à qui il reproche de n'avoir jamais rompu avec son passé pro-mussolinien. Il devait être l'invité de la RAI le 25 avril, date anniversaire de la chute du fascisme en Italie, et il a été brutalement déprogrammé. L'affaire faisait hier la une d'une bonne partie de la presse transalpine. La RAI censure Scurati, s'indignait la Repubblica, en révélant un document interne qui invoque un choix éditorial pour justifier cette déprogrammation. Alors que la direction de la chaîne publique prétend, elle, que Scurati avait des exigences financières trop élevées. Il demandait 1800 euros au lieu de 1500, paraît-il.
Mazette.
Problème de cachet ou lettre de cachet, à vous de choisir.
Cachoterie même.
Le Corriere della Sera publie in extenso le texte de l'interview de Scurati, où l'écrivain appelle Giorgia Meloni à prononcer enfin un mot qu'elle s'interdit toujours, en antifascisme.
On termine avec le dessinateur Johan Sfar qui vient de publier un roman graphique consacré aux attaques du Hamas en Israël le 7 octobre dernier.
Son interview est à lire dans le Figaro et ce qu'il dit est à la fois fort et sensible comme ce qu'il dessine. L'auteur de la série Le chat du rabbin a 53 ans. Le Figaro le présente comme un infatigable portraitiste de la condition humaine et de la condition juive. Après le 7 octobre, il a mis de côté tous ses projets pour réaliser cet album de 450 pages titré Nous vivrons, qui se veut une enquête sur les racines de l'antisémitisme et une galerie de portraits de juifs s'interrogeant sur leur identité. Le rôle d'un artiste n'est pas d'être apaisé quand tout va mal, mais de transcrire des sentiments et de les dire de manière intelligible, explique Johan Sfar. Il reproche aux artistes de s'être tus après le 7 octobre. Il raconte que des librairies refusent de placer son livre en vitrine, ce qui est une autre forme de censure. Nous vivrons est le plus français de mes livres, dit-il. Il dit que nous, les Juifs, voulons avant tout être des Français comme les autres et avoir notre place autour de la table. Cela mérite d'être dit et d'être entendu.
Hervé Gattegnaud, la revue de presse. À demain, Hervé.
À
merci
demain.
Beaucoup. Dans un instant, Luc Ferry, notre esprit libre du lundi. Radio Classique, 8h39.